Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le soulèvement populaire en Iran après les annonces de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran à cause de la répression des manifestations, l'Iran dénonce l'hypocrisie du président américain. Iran où la mobilisation ne faiblit pas. Après la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation pour un voile jugé mal porté, notre invitée sera Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Le Maroc lève ses dernières restrictions d'entrée. Les personnes désirant se rendre dans le royaume n'auront désormais besoin ni du test PCR ni d'une vaccination contre le Covid-19. L'Arabie Saoudite est désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 à Neom, une future mégalopole futuriste. Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites soit adoptée avant la fin de l'hiver. Il y a quelques jours, le chef de l'État a brandi la menace d'une dissolution en cas de blocage. Nous écouterons la réaction de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste. Elle reviendra notamment sur le nouveau texte sur l'assurance chômage débattu à l'Assemblée nationale, extrait dans votre édition. Après plusieurs semaines de manifestations en Iran, la vive contestation continue, mouvement déclenché par la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté, un mouvement réprimé par les autorités. Le président américain indique que les États-Unis infligeront de nouvelles sanctions aux auteurs de violences contre des manifestants en Iran. De son côté, Téhéran a réagi en dénonçant l'hypocrisie du président américain sur ce soulèvement populaire en Iran. Entretien avec Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie.
Ce qui se passe en Iran, c'est une accumulation d'injustices et de privation des droits les plus élémentaires qui fait descendre les femmes et les hommes dans les rues. Donc, ça veut dire, certes, on n'attendait pas à ces mouvements massifs, mais quelque part, on attendait parce que, en connaissance la situation de la société iranienne, tout peut déclencher ce type de protestation. N'oublions pas qu'en novembre 2019, l'augmentation du prix de l'essence a fait descendre des gens dans la rue, mais leurs revendications ne se limitaient pas à cette augmentation du prix du pétrole, mais il réclamait à bas la dictature. Donc ça montrait que dans cette société, les injustices, privation de l'égalité, de la liberté a fait de sorte que les gens attendent un moment pour montrer leur mécontentement de ce régime.
Et quelles sont les spécificités de ce mouvement auquel, vous l'avez souligné, participent les femmes, mais aussi les hommes?
Oui, particularité de ces dernières protestations qui, heureusement, continuent encore malgré les répressions et le nombre de morts qu'on n'arrive pas à avoir le chiffre exact, mais on parle au moins de 200 morts depuis 2 semaines et des milliers blessés, à savoir que certaines et certains ont peur de s'adresser pour se faire soigner dans les hôpitaux parce qu'ils risquent ou elles risquent d'être arrêtés, et des milliers d'arrestations. Cette spécificité de ce mouvement, c'est que on voit, c'est plutôt les jeunes. C'est les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont nés sur ce régime, qui n'ont rien connu que ce régime, mais qui ont ras-le-bol de continuer à vivre comme ça. Donc, du coup, les spécificités, c'est les jeunes, les femmes en premier rang. Et pour votre info, il y a les étudiants, les ouvriers, les enseignants qui sont en train de joindre à ce mouvement. Donc, les slogans essentiels que vous avez dû entendre, c'est « Femme, vie, liberté » en 3 langues, aussi en kurde et en farsi, qui est slogandé dans les rues des différentes villes en Iran. Car, certes, il y avait une répression généralisée depuis que ce régime est au pouvoir, mais les femmes ont été privées de tous les droits et cette loi de porte-voile obligatoire, ce n'est pas seulement un bout de tissu sur la tête, c'est la domination de ce masculine imposé aux femmes. C'est pourquoi les femmes sont en premier rang, mais leurs revendications dépassent pour sous pression de la loi sur le porte-voile obligatoire ou bien la suppression de la police de mœurs. Ça va plus loin, ils réclament l'égalité, justice sociale et la liberté.
La crise économique que vit aujourd'hui l'Iran a-t-elle contribué, selon vous, à amplifier ce mouvement de contestation ?
Sûrement, à savoir que l'Iran est en une crise économique très très profonde depuis des années. Pourtant, ce pays, c'est un pays très riche, mais le partage de richesses est de sorte que c'est l'État, les membres de l'État et son entourage qui sont remplis leurs poches au prix de mettre plus de 50 millions d'Iraniens en pauvreté. À savoir que les chiffres exacts de c'est compliqué à obtenir, même les chiffres étatiques partent de 40% de la population qui vit sur le seuil de pauvreté. Donc, ça fait plus, l'Iran, c'est un pays de 80 millions d'habitants. Et donc, c'est très compliqué pour les gens de vivre, de finir le mois. Il y a beaucoup de chômage, mais pourtant, c'est un pays très, très, très riche. Et donc, les sanctions suite aux aventures nucléaires du régime ont aggravé la situation économique en Iran. Du coup, les jeunes sont touchés massivement par cette crise économique, en plus d'être privés de leurs droits plus élémentaires, de choisir leur mode de vie, choix vestimentaire. C'est la crise économique qui est aussi une des raisons de ces vagues de protestations actuelles en Iran.
Et comment accueillez-vous la mobilisation internationale face à la répression des manifestations en Iran? Une mobilisation internationale, notamment le week-end dernier, dans de nombreuses grandes villes.
C'est très bien. Heureusement, et au contraire de ce qui s'est passé en 2019, parce qu'en 2019, il y avait un mouvement de protestation en Iran qui a été réprimé dans le bain de sang. Il y a plus de 1500, je parle de 2019, tués et des milliers de blessés et 7000 arrestations. Mais on n'a pas pu obtenir une solidarité internationale telle qu'on est témoin aujourd'hui. Et là, le régime a pu réprimer ces mouvements de protestation. Cette fois-ci, heureusement, malgré que la connexion d'Internet est très compliquée ou fortement perturbée, donc les infos arrivent et donc ça a fait que les Iraniennes et les Iraniens et aussi beaucoup de gens dans les différents pays ont descendu dans la rue pour dénoncer cette répression, de slogan le femme vie liberté, de dire cet slogan qui est dit actuellement en Iran massivement et de soutenir ces mouvements, de dénoncer. Je pense que ce soutien ne suffit pas, il faut continuer.
Et aujourd'hui, vous attendez une réaction et une condamnation plus forte, notamment de la part de la France, face à la répression de ces manifestations?
Absolument. Il faut condamner haut et fort ces répressions. Il faut soutenir le peuple iranien dans leur combat pour obtenir la liberté et l'égalité. Et je pense que les prises de position en France, malheureusement, n'est pas à l'auteur de ce qu'on attendait d'un pays qui défend les droits humains.
Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Le Maroc annonce la fin des restrictions sanitaires aux frontières, une mesure liée à la baisse de la propagation du Covid-19 dans le pays. Les voyageurs n'auront plus à présenter de résultats de tests PCR négatifs ou de passe vaccinal. En clair, le pays ouvre ses frontières à tous les voyageurs internationaux, vaccinés ou non. Depuis le 18 mai, les voyageurs devaient obligatoirement présenter un pass ou un test négatif de moins de 72 heures en plus de la fiche sanitaire. L'Arabie l'Arabie Saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 à Neom, une future mégapole futuriste. Elle est en construction dans le nord-ouest du royaume. Le Conseil olympique d'Asie affirme que les déserts et les montagnes d'Arabie Saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver. Les Jeux asiatiques d'hiver comprennent des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace et de patinage artistique. Un total de 47 épreuves. La Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon. C'est une première depuis 2017. Le missile s'est abîmé dans le Pacifique, à l'est de l'archipel. Un test vigoureusement condamné par Tokyo. En France, Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites soit adoptée avant la fin de l'hiver. Il y a quelques jours, le chef de l'État a brandi la menace d'une dissolution en cas de blocage. La réaction de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité.
On voit bien que, comme dans sa propre majorité, de M. Bayrou jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont dit qu'il n'était pas opportun de faire voter une contre-réforme allongeant le droit d'accès à la retraite à 65 ans, comme il le dit aujourd'hui, n'était pas acceptable, et qu'il y a quand même une majorité de la population, 74%, des gens sont contre cette réforme. Aujourd'hui, il brandit cette menace, non pas parce qu'il compte la mettre à exécution, mais parce qu'il veut ressouder sa majorité. Il fait peur à ses députés en leur disant « si vous me suivez pas, je dissoudrai l'Assemblée et advienne que pourra ». Je pense d'ailleurs qu'il serait battu.
Que pensez-vous du calendrier voulu par Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites? Il veut que le texte soit adopté avant la fin de l'hiver.
Oui, mais les enjeux de méthode comme ceux de calendrier et la volonté d'aller vite ne sont évidemment pas justifiés. La question fondamentale, c'est le fond. Le fond, c'est qu'on va repousser l'âge de la retraite, dit-il maintenant, à 65 ans, après avoir dit le contraire entre le détour des élections présidentielles. Ne l'oublions pas. En plus, il va baisser le niveau des pensions, alors qu'il n'y a strictement aucune urgence. Le Conseil d'orientation des retraites a dit que nous étions largement à l'équilibre, et de toute façon, on peut trouver des moyens de financer les retraites, notamment par le plein emploi et en mettant à contribution un peu plus les cotisations sociales des employeurs qui aujourd'hui ne sont pas au niveau où ils devraient l'être. Et donc il fait ça en disant qu'il va utiliser une partie de cet argent-là pour d'autres investissements, mais il trompe les gens. Les caisses de sécurité sociale, ce n'est pas fait pour faire des routes ou pour construire je ne sais quel bâtiment. Les caisses de sécurité sociale sont la propriété des assurés sociaux, et ce qu'on a quand on a l'assurance maladie ou qu'on a la retraite, on a un salaire continué. Et ce salaire continué ne peut pas être aujourd'hui détourné pour faire autre chose comme il veut aujourd'hui le faire. Et ce qu'il y a aussi derrière, c'est qu'il veut respecter la trajectoire budgétaire que donne le gouvernement français aux autorités européennes, qui regardent ça sur 5 ans, en obligeant à revenir à l'équilibre des comptes publics. Donc il y a une double pression qui s'exerce, qui n'est pas du tout justifiée.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. La Première ministre a annoncé la mise en place d'une aide financière à partir de fin novembre pour les ménages qui accueillent des déplacés ukrainiens chez eux. Une aide de 150 à 200 euros pendant quelques mois. Elisabeth Borne a salué l'accueil de plus de 100 000 Ukrainiens. Un accueil qui, dit-elle, s'est organisé rapidement, efficacement et dignement. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste. Le premier texte débattu à l'Assemblée concerne les règles de l'assurance chômage. Emmanuel Macron a annoncé la possibilité par décret de moduler l'assurance chômage pour qu'elle soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. La réaction de Corinne Narasiguin.
Cette modulation que propose Emmanuel Macron n'a aucun sens, puisque les personnes qui se retrouvent au chômage images ne sont pas responsables de la conjoncture dans laquelle ils se trouvent, dans laquelle ils se retrouvent au chômage, et donc il n'y a aucune raison que leur capacité à se nourrir correctement ou à garder un toit dépendent du fait qu'il y ait plus ou moins de niveau de chômage en France ou du nombre d'emplois non pourvus. Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, c'est toujours l'habitude d'Emmanuel Macron de faire peser sur les chômeurs la responsabilité de la situation dans laquelle ils se trouvent, comme si ils étaient chômeurs parce qu'ils étaient fainéants, parce qu'ils le souhaitaient. Et ça, c'est scandaleux. Et puis, par ailleurs, il essaie encore de faire des économies sur le dos des chômeurs, alors qu'ils continuent à vouloir réduire les impôts sur les entreprises, y compris les grandes entreprises, et ils n'envisagent aucun moment de rétablir la flat tax ni l'ISF. Et donc ça, on voit bien que c'est la continuité des politiques qu'a toujours mené Emmanuel Macron dans le quinquennat précédent, donc qui n'a changé en rien sur ces questions-là. La question du chômage, c'est une question évidemment endémique dans le pays, qui reste une question très sérieuse, mais les emplois non pourvus, ça c'est pas la faute des chômeurs, c'est le problème d'anticipation pour prévoir des formations professionnelles adéquates, pour prendre en compte les questions de difficultés de mobilité et de coûts en termes de coûts de temps et d'argent pour que les chômeurs puissent accepter des emplois s'ils sont correctement formés, si évidemment ces emplois correspondent à leurs compétences, des emplois qui sont éloignés de chez eux. Voilà, donc c'est un problème qui est beaucoup plus large et qu'on ne peut pas faire reposer sur l'épaule des chômeurs.
Corinne Narasiguin, les prix de l'électricité et du gaz vont augmenter de 15% en début d'année prochaine. Les prix alimentaires ont véritablement explosé dans les supermarchés. Vous redoutez une explosion sociale dans les semaines et les mois qui viennent? On se rappelle de la crise des Gilets jaunes qui avait commencé en octobre 2018.
Oui, je pense qu'au fur et à mesure que les Françaises et les Français vont ressentir, surtout sur leurs factures, les dégâts de cette inflation, on risque d'avoir effectivement une explosion. On a une colère qui gronde depuis longtemps, qui n'a pas été soldée par le résultat des élections présidentielles ni législatives, et qui n'a pas apporté un espoir de changement. Et donc, effectivement, cette colère, elle peut se traduire en explosion sociale. On n'a pas encore vu cela, puisqu'on a vu que la mobilisation syndicale, malheureusement, pour l'instant, n'a pas encore été aussi forte qu'espérée, parce que, paradoxalement, justement, aussi, cette inquiétude sur le pouvoir d'achat fait qu'on hésite plus à perdre une journée de salaire en faisant grève. Mais s'il n'y a pas de réponses concrètes qui sont apportées sur les salaires et sur le blocage des prix, effectivement, on prend un grand risque d'explosion sociale dans les prochaines semaines et en tout cas dans les prochains mois.
Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste. Elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h. Une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.